Je n'ai rien compris à cette question, mais Flo, tu peux y répondre.
Cette espèce d'abruti de sable fait mourir de rire.
Nous, on est en progression.
Bonsoir et bienvenue à tous pour une nouvelle émission de la Cape de Papy. Ce soir, on va tout simplement débriefer le match Paris-Strasbourg qu'on a vécu il y a quelques instants. C'est Flo qui présente ce soir et je suis en compagnie de Thomas ce soir qui est là pour la première fois avec nous. Comment tu vas, Thomas ?
Salut Flo, salut Steve, salut tout le monde, ça va très bien. Voilà, on va essayer de débriefer ça au mieux.
Je suis aussi en compagnie de Steve, du coup, salut Steve, qui est ce soir-là pour sa deuxième émission. Comment tu vas, Steve ?
Écoute, j'ai eu peur au bout de 30 minutes, mais là, finalement, je me sens plutôt bien malgré la défaite. C'était pas mal. Donc ça va.
Tant mieux, tant mieux. Ben, du coup, on va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc ce soir, on a un programme assez chargé, comme d'habitude, donc je vais vous le présenter. Ça va se découper en quatre parties. Donc on a la première question qui est des regrets ou des espoirs. Donc vous l'avez affiché sur l'écran. La partie 2 se tournera autour du duo Gamero-Ajorque, donc on va revenir sur leurs performances respectives. Pour la partie 3, on va s'occuper de la feuille de Thomas, ce soir Thomas qui nous a concocté la feuille. Et pour la partie 4, on va faire les pronos de l'émission pour le prochain match contre 3. Voilà. Donc pour commencer, comment vous avez vécu le match de votre côté, Thomas ou Steve? Je sais pas qui veut commencer.
Écoute, je vais commencer.
Vas-y Steve.
Ok. Moi j'avais peur qu'on prenne une valise, surtout après le but à la troisième minute. Je me disais ça va être compliqué. Après on a le coup du sort avec le ballon dévié d'Ajorque. J'ai aïe, et dans la minute suivante quasiment le troisième but, je me disais ça va passer une très mauvaise soirée. Et l'entrée de Thomasson a changé tout le match. L'entrée de Thomasson a changé tout le match, et alors deuxième mi-temps, si on prend que les 35 premières minutes, elle est parfaite.
Voilà. Je pense qu'on est globalement d'accord. Thomas, comment tu as vécu ce match de ton côté ?
Écoute, sur le fond, je vais être assez d'accord avec Steve. Hein. 30 premières minutes, plutôt compliquées. Tu sens la valise arriver. Tu abordes la deuxième mi-temps en te demandant s'il vaudrait mieux pas bétonner pour pas en prendre 8. Et puis finalement, tu te rends compte on a rivalisé d'ambition avec eux, on a montré du jeu, c'est montré plutôt offensif, et puis on est rapidement récompensé en deuxième mi-temps, en mettant ces deux buts à 3-2, t'as quand même une espèce d'espoir qui commence à arriver, t'as Cels qui te fait des super parades, voilà, puis bon, après, on en reparlera plus tard, mais bon, les espoirs se sont un peu écroulés sur des faits de jeu plutôt discutables, on va dire.
Ça tombe bien, on va pouvoir du coup attaquer tout de suite la première partie. Donc c'est tout simplement des regrets ou des espoirs. Donc qu'est-ce qui ressort le plus pour vous justement ce soir après cette rencontre? Des regrets, des espoirs, un peu des deux?
Des espoirs, parce que des regrets, ce sont des faits de jeu en fait. Hein. Les deux premiers buts sont des faits de jeu. Le quatrième, il est anecdotique. Pour moi, il peut y avoir que quand on voit l'équipe comme elle s'est transcendée, comme elle s'est transformée en deuxième mi-temps, il ne peut y avoir que des espoirs.
Ouais, je suis entièrement, encore une fois, entièrement d'accord avec Steve. Je pense que ce qu'il va falloir retenir ce soir, c'est que on est quand même mené 3-0. Tu peux quand même avoir la tête au fond du sac. Et je trouve qu'on revient en deuxième mi-temps, bon, avec Thomasson qui te change tout. Hein, ça, c'est il faut le redire exactement. Et puis voilà, je veux dire, à 3-2, il y a énormément d'espoir. Bon, et comme dit Steve, le quatrième, il est complètement anecdotique. On est à 10. Donc ouais, moi je suis vraiment vraiment content de la prestation et je trouve qu'elle est extrêmement encourageante pour la suite.
Je vous rejoins totalement hein, sur ce point-là, plutôt des espoirs que des regrets, parce que c'est vrai qu'en prenant un but très très rapidement dans un match comme ça, on peut s'attendre à prendre une valise, et surtout en étant mené 3-0 après une demi-heure de jeu et avec des faits de jeu contre nous tout simplement. Donc c'est vrai que revenir à 3-2 dans ces conditions et faire une seconde mi-temps globalement très très correct, on va pas dire qu'on était au-dessus du PSG, mais on a quand même très bien rivalisé avec eux, donc je pense qu'on est plus dans les espoirs que dans les regrets. Après, des regrets, il y en a un peu, et on va peut-être revenir dessus, notamment avec des, Des faits de jeu, comme on disait, notamment ce but qui est peut-être hors-jeu pour certains, pas pour d'autres. L'arbitre a tranché qu'il n'y avait pas hors-jeu. Vous avez peut-être un avis sur la question.
C'est la VAR qui a tranché. C'est la VAR
qui a tranché.
C'est l'arbitre. Parce que quand on voit qu'à l'Euro, quand il y avait un bout d'ongle qui dépassait, il y avait hors-jeu. Là, Icardi, il a le bras, il a l'épaule. Même Canal+, hein, ils étaient perplexes hein, pendant le... Les commentateurs avaient dit que le but allait être refusé. Mais finalement, non. Et c'est dommage. Parce que si tu ne prends pas ce but...
C'est aussi que... Ouais, je te laisse continuer.
Tu prends pas ce but-là, la suite n'est pas pareille. Hein.
Bah oui, justement, surtout que c'est très, très rapidement, première action de jeu, troisième minute de jeu, ça te modifie tout le match. C'est pas un truc anecdotique, en toute fin de match.
Après,
là, ça change complètement les plans de jeu et la physionomie du match.
C'est ça. Et après si on met à part le hors-jeu, Celtic, il est aux fraises aussi. Hein.
Oui, Celtic, ouais. Pour moi,
à mon avis, anticipe. Tu le vois bien sur les images hein, quand tu regardes. Ça se voit clairement qu'il anticipe la prise de. Enfin, il pense que Sissoko va intercepter parce qu'il part dans l'autre sens. Et il est tellement surpris qu'en fait il est pris à contre-pied et il est beaucoup trop avancé et puis voilà. Bon après tu peux remonter au début de l'action où on n'est pas du tout assez agressif, on est très très loin du porteur, Diallo il a le temps de boire un café et de s'asseoir pour centrer.
c'est pas
normal non plus, tu vois, d'être à 7-8 mètres d'un mec comme ça qui va te déposer une galette pour Icardi, c'est pas normal, voilà. Et je pense qu'on peut beaucoup parler du hors-jeu. Mais moi, à mon avis, ce serait bien plus constructif de parler de ce laxisme entre guillemets sur le début de l'action.
Bon, je vais pas.
Je vais vous couper un instant. Vas-y. On a Footeuse qui nous a rejoint. Je ne sais pas si tu nous entends.
Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez?
Très bien.
Oui, on t'entend.
Ouais.
Bienvenue à toi. Du coup, on a Footeuse qui nous rejoint. Du coup, une tweetose parisienne qui était au match, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait. Je suis désolée, c'est pas les conditions optimales et j'étais prévenue un petit peu en dernière minute, mais j'ai voulu honorer l'invitation et vous faire un coucou. Et voilà, je trouve que c'est toujours sympa de parler avec les supporters adverses. On apprend, on voit une autre vision. Donc, je suis ravie de passer quelques minutes avec vous.
Bah, ça nous fait super plaisir de t'accueillir. Et bah, du coup, comment tu as vécu ce match de ton côté?
Un petit peu bizarre parce que moi ce qui m'a le plus touché c'est pas tant Messi etc, c'est vraiment de retrouver le stade après quasiment un an et demi sans stade. C'était vraiment une grosse frustration, donc retrouver ses repères et tout, c'est vraiment ce qui me marque le plus, de revoir certaines têtes que je vois que au Parc des Princes ou au stade de manière générale. Donc ça c'est vraiment le sentiment qui a prédominé. Et puis, sur le reste, de revoir aussi des supporters. Je sais que je voyais au loin les supporters strasbourgeois, mais je ne les entendais pas. Je voyais bouger. Mais vu le bruit qu'il y avait dans ma tribune, je ne savais pas si on les entendait ou on ne les entendait pas. Mais c'est agréable aussi de voir des supporters adverses, parce que ça n'a pas toujours été le cas dans les mois qui ont précédé le Covid. Donc ça, c'était vraiment... Voilà, au-delà du match, c'est mon sentiment premier, c'est le retour au foot, le retour à la vraie vie, et ça, c'est un bonheur, un vrai bonheur.
Bah, c'est un sentiment que je comprends totalement, puisque c'est vrai que nous, la semaine dernière, on a aussi retrouvé notre méno, et c'est vrai que retrouver un stade plein, et on n'avait pas vécu ça depuis 18 mois quasiment, c'est vrai que c'est une sensation particulière, et ça passe largement prioritaire par rapport à tout le reste qui se passe sur le terrain.
Ouais. Bah, je suis désolée, j'ai raté le début de l'émission, donc vous avez pensé quoi j'arrive un peu comme un truc sur la soupe, mais vous avez pensé quoi du coup, vous, de l'ambiance que j'ai pris en cours? Est-ce que vous, ce qui a prédominé, c'est l'arrivée des recrues, c'est le match en lui-même, c'est...
Non, bah, clairement, nous, si tu veux, je vais me faire le porte-parole de mes
vas-y, Thomas.
Potes. Nous en fait, si tu veux, Messi et compagnie, c'est pas trop ce qui nous intéressait ce soir, hein. C'est bien, ça fait partie du folklore et compagnie, mais nous ce qu'on a vu, c'est on s'est concentré sur le match de notre équipe. Donc on est passé par des sentiments un peu multiples, et ce qui prédomine à la fin, c'est que en fait on part avec beaucoup d'espoir et on est assez satisfait du match qu'on a livré ce soir. Voilà, et
je pense que vous que le pardon.
C'est pas grave, j'avais fini, vas-y, vas-y.
Non, je disais, je pense que justement l'équipe, en tout cas vu du stade, c'était un peu plus compliqué pour Strasbourg en première mi-temps. Mais je pense que voilà, c'est le genre de match où on a l'impression que le PSG, comme j'en ai vu des centaines, tu as l'impression que le PSG est prenable parce qu'il n'y a, a pas encore les automatismes, parce que tu n'as pas l'équipe titulaire, parce que tu as quelques joueurs. Quand tu vas voir un Kimpembe qui est quand même qui a une forte explosivité, une forte vitesse, il est quand même à la ramasse. On voit que physiquement, sa préparation n'est pas encore complètement terminée. Tu as des passages comme ça où c'est le genre de match, si tu es préparé avant, si toi, tu as une équipe qui n'a pas 5 internationaux et que voilà, c'est là où tu peux construire des choses et les mettre vraiment en difficulté. On l'a vu par séquence de jeu sur le match. Ouais. Il y a des moments, je me disais, oh là là, mais c'est... Nous, on va rentrer dans nos travers, mais c'est à peu près normal parce que, voilà, on n'a pas les automatismes avec les bonnes personnes. C'est pas tous les titulaires, c'est pas tout ça. Mais derrière, on voyait quand même des belles choses. Et je me disais, mais c'est le genre de match piège où à la fin, tu te prends la petite remontada de fin d'été, de match où tu n'as pas su rester concentré, sur trouver le physique dans un mois d'août compliqué, voilà.
Ouais, bah c'est là où nous on va peut-être avoir des regrets parce qu'en fait bon je sais pas si t'as vu mais on est sur le premier thème de l'émission c'est des regrets ou des espoirs donc on est tous assez unanimes pour dire qu'on a beaucoup de motifs d'espoir mais on va peut-être aussi avoir quelques regrets parce qu'on se dit qu'à 3-2 ben il y avait peut-être moyen voilà il y a peut-être moyen je dis pas qu'on aurait tenu le nul jusqu'à la fin encore moins à 10 mais on va peut-être avoir des regrets sur ça, sur le fait que bah il y avait peut-être moyen de revenir à 3-3 et puis après advienne que pourra.
Ah mais le rouge.
Après moi je suis peut-être. Pardon.
Le rouge, c'est le rouge. Hein. Si on prend pas le rouge, ça peut être différent derrière. Hein.
Ouais, tout à fait. On ne saura jamais. Mais
justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des choses dans les commentaires, Steve, sur Facebook, par rapport à cette première partie?
Alors. C'est très fleuri. C'est très fleuri. Il y a pas mal de protestations contre l'arbitrage que je venais pas citer. Mais par exemple,
qu'est-ce qui s'est passé?
Bah le but d'Icardi, il est beaucoup de monde, il est hors jeu. Même sur le révélateur de Canal+, il est hors jeu. Mais la VAR l'a validé.
D'accord.
Voilà.
Parce que je sors littéralement du stade. Je me suis mis dans un coin pour vous parler près de l'arrêt de bus, mais j'ai pas vu les commentaires ni les ralentis, j'ai pas revu le match, donc j'ai pas vu voilà s'il y avait vraiment carton rouge, des hors jeu, pas des hors jeu.
C'est extrêmement
limite. Bah c'est très limite, d'accord. C'est très 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 limite. Ouais,
dans l'esprit, c'était mérité, il est pas volé. Voilà.
Et le
rouge, le rouge, c'est un scandale, n'ayons pas peur des mots.
Il est scandaleux le rouge.
D'accord. Ok. Bah de là où je voyais pas. Je n'ai pas d'avis sur la question.
Bah, tu regardes les statistiques de Djikou, qui fait un match propre jusqu'à sa première faute, ou quasiment sa première faute, à la, je ne sais plus combien, 75e ou 76e, où il fait une faute qui n'est pas non plus un attentat sur le long de la touche. Et il prend un deuxième jaune 2 minutes après pour une poussette. L'arbitre, en fait, pense qu'il fait un truc par derrière, alors qu'il ne touche absolument pas le joueur, on l'a vu au ralenti. Il fait une espèce de petite poussette dans le dos.
Mais il
n'y
a pas de VAR pour les jaunes, c'est ça le problème.
Bah le problème, voilà, il y a pas de VAR pour ça parce que tu peux pas déjuger un arbitre sur ça. Mais
non, tu peux pas déjuger un arbitre sur un jaune. Voilà. Et comme c'est un deuxième jaune, c'est pas rouge et qu'il y a pas,
tu le déjuges,
ça vaut pas rouge. Tu peux pas lui dire, maintenant comme ça vaut pas rouge, ça vaut rien. Donc, malheureusement, ça fait pas partie. Après, tu parles à une convaincue parce que moi, je suis supportrice joueur fétiche, c'est Verratti. Et peu importe la faute qu'il fait, que ce soit la première du match au bout de 30 secondes, au bout de 25, même que ce soit une poussette, un tirage, que ce soit mérité, pas mérité, il y a des têtes comme ça, il y a des ambiances comme ça où les arbitres, sous la pression, ils sont capables de dire c'était peut-être un moment qui était tendu, peut-être qu'ils n'avaient pas envie que le premier match que regarde Messi ce soit une défaite pour le PSG, j'en sais rien, mais tu non, sens qu'il n'est pas toujours très, très serein et très logique, quoi.
Bah c'est le problème, c'est que je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça aussi, Steve et Flo, mais je sais pas, ce Starvit, il a une tête de méchant, il y a un truc pas très sympa qui émane de lui, et voilà, il a fait preuve de zéro psychologie, très clairement. Djikou fait un match propre du début à la fin, on fait un match propre même de manière générale.
Les deux équipes, c'était un match propre,
il n'y a rien pour sortir du rouge, c'est un match totalement propre, il n'y a pas eu un problème, pas une embrouille. Qu'est-ce que tu as besoin de nous sortir ce rouge à la 80e minute?
Franchement, je suis parisienne et je suis d'accord avec toi. Je me dis, si, vu l'ambiance du match, et sauf si c'est vraiment une faute qui est un attentat, je ne l'ai pas vu, donc je parle sans savoir. Ouais. Mais sauf si c'est vraiment une faute qui est un vrai attentat, ou un, même si ce n'est pas un attentat, mais un geste malheureux, mais qui fait mal, des choses comme ça, tu laisses, tu te dis, ça ne vaut pas le coup de jouer. Moi, ça m'énerve.
C'est ce qu'il a interprété, le joueur parisien, évidemment, en a rajouté. Voilà.
Ouais, clairement, après, c'est une bonne guerre, mais...
Ouais, non, mais bien sûr, oui. Ouais, c'est pas là pour lui tirer dessus. Mais très clairement, le parisien en a rajouté. Et voilà, et puis l'arbitre est tombé dans le panneau. Et voilà, je pense qu'on en reparlera plus tard.
Mais sinon, par rapport à la question, du coup, je vais lire quelques commentaires de YouTube. Il y a Jules Pierrel qui nous dit que la première mi-temps est à jeter et la deuxième mi-temps exceptionnelle quand on s'est mis à jouer en n'ayant rien à perdre. On a Lucas Schneider qui dit « Je crois que personne ne s'attendait à cette réaction en seconde période et je pense qu'il est loin d'être le seul à ne pas s'attendre à cette réaction. On avait tous peur, comme dit, de prendre une valise. » Donc c'est vrai que...
J'ai une nuance quand ce sera sur ça. Pour voir beaucoup de matchs du PSG, il y a toujours un effet deuxième période parce que le PSG, quand il domine les premières, il a tendance à se relâcher. Donc, il y a un effet double qui peut être, qui est à mettre au crédit de Strasbourg et de toutes les équipes qui arrivent à faire ça en deuxième période, de se dire bah, perdu pour perdu, vu ce qu'on s'est pris première mi-temps, etc. On peut que aller dans le bon sens en seconde et on peut gagner la seconde, à défaut de gagner le match, au moins gagner la seconde partie. Ouais. Et souvent, tu vois un relâchement et aussi certains joueurs du PSG, alors pas là parce que c'est un match de prépa, mais même dans d'autres matchs, parfois, certains joueurs du PSG qui pêchent physiquement en deuxième, il y a vraiment un relâchement. Donc, tu as l'effet double. Le relâchement, ça n'explique pas tout, ça n'explique pas des belles phases de jeu. Moi, j'étais devant l'attaque de Strasbourg en deuxième mi-temps, donc c'était vraiment... Il y avait vraiment des belles séquences où tu te disais, ouais, mais c'est pas juste voilà, un ballon qui est passé au travers des gouttes. Et... Non, il y avait une vraie volonté. Donc, on peut, pour répondre à la première question, moi, j'aurais mis espoir tout court. Quoi. On est en préparation également pour Strasbourg. C'est plus espoir que regret. Ça n'a pas payé, mais tout est à prendre, en fait.
Moi, j'ai une petite nuance à apporter aussi par rapport à la première mi-temps. Alors ouais, on prend 3 buts, quand tu prends le constat froidement, on va dire que c'est une première mi-temps merde, mais moi je trouve qu'il y a quand même eu des choses assez intéressantes en première mi-temps, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il y a eu des projections vers l'avant, il y a eu des occasions avec Gamero, Ajorc, enfin on n'a pas été non plus complètement ridicule, je trouve. Hein. On se fait assommer, on prend 3 buts, on se fait assommer, on en a plein la cafetière, mais je trouve pas qu'on ait été totalement ridicule moi en première mi-temps. On a envoyé du jeu, on est bien ressorti. J'ai trouvé Bellegarde vachement actif. Moi, j'ai pas trouvé ça nul. Franchement, j'ai pas trouvé ça nul. Voilà.
Bah justement, ouais, je trouvais qu'en première mi-temps, on a tenté des choses, mais il manquait pas mal de choses dans le dernier geste. Et justement, en seconde période, je trouve qu'on s'est appuyé sur cette première mi-temps pour corriger le tir. Et c'est pour ça qu'on a vu qu'on était quand même beaucoup plus dangereux et qu'on se projetait beaucoup plus vite vers l'avant.
Ouais, c'était la deuxième, enfin la première, c'est l'esquisse de ce qui s'est passé en deuxième. Effectivement, on allait plus vite, et c'est pour ça qu'on met deux buts aussi, clairement.
Si je peux me permettre, en première, par exemple, moi j'avais la défense de Strasbourg, du coup, et même sur certaines actions où vraiment la défense se faisait transpercer, surtout sur les côtés, on a vu vraiment des séquences. Je voyais qu'à la récup, Strasbourg essayait vraiment. Il n'y avait pas de panique, il n'y avait pas de truc, c'était vraiment. Il y avait une volonté, ça ne marchait pas parce qu'après, ça s'arrêtait au deuxième rideau, donc au milieu. Mais il y avait vraiment cette. Je voyais que malgré justement ces combinaisons entre un Wijnaldum, un Mbappé ou parfois même un Hakimi, même dans la surface, je voyais que quand il y avait une interception, il y avait une volonté de regarder, lever la tête, de faire sa propre. Et même quand ça coulait. Je l'ai vu, après, je voyais mieux la défense en première mi-temps et l'attaque en deuxième. Donc j'ai une vision plus restreinte. Mais en tout cas, je voyais déjà cet effort-là, il a salué parce qu'on ne le voit pas souvent. Et on le voit encore moins quand les 1-2, 1-2-3, aussi talentueux, arrivent devant. Tu vois, ça peut t'intimider, ça peut te faire douter. J'ai vu des gens qui, même quand ils se faisaient prendre comme ça, débordés, débordée, etc. J'ai senti quand même une volonté de bien faire et d'avancer, de ne pas se laisser impressionner malgré les vagues.
Ouais. Moi, j'ai une question pour toi, footeuse, si possible, si tu veux bien.
Oui, bien sûr.
Ouais. En fait, moi, j'aurais juste aimé savoir qui était ressorti de ton côté, enfin, qui tu trouvais très bon ce soir, qui t'a plu dans cette formation du PSG.
Du PSG, écoute, moi, j'aime beaucoup, mais c'est un chouchou depuis qu'il est arrivé, Hakimi, mais j'ai beaucoup suivi la Serie A l'année dernière et la Juve, donc lui, c'est vraiment un chouchou. J'ai vu de très belles choses de Wijnaldum. Bon, après, les autres, je suis un peu habituée. Donc, voilà. J'ai bien aimé Dina Elimbe, un petit jeune. Je trouvais qu'il avait lui aussi essayé. Il a galéré de temps en temps. Il m'avait l'air un peu gauche, mais je sentais une volonté aussi de ne pas se laisser impressionner. Il ne faut pas oublier, tu vois, t'es jeune, c'est un de tes premiers matchs et tout. J'ai trouvé qu'il avait fait une belle entrée. Voilà, c'est ceux qui ressortent. J'ai trouvé que Navas était... moins que d'habitude, parce que d'habitude il est toujours dans mes tops, quel que soit le match. Je sais pas.
Il peut pas faire grand chose sur les deux buts, je t'avoue. Enfin, pour moi, je trouve
qu'il
peut pas faire grand. Ouais, je pense. Ouais. Tu regarderas.
Avec les angles, je sais pas. Il y a une action de Strasbourg où franchement, je l'ai vu des centaines de fois avec Areola, où il arrête et c'est un tir croisé en première mi-temps. C'est un tir croisé de Strasbourg. Et qu'il dévie j'arrive pas à voir parce que comme c'est de l'autre en face, j'arrive pas à voir si c'est vraiment lui qui fait la différence. Vous pourrez me dire, mais c'est le seul moment où je la voyais dedans. Et finalement, il finit par la toucher. Je sais pas si elle est détournée, mais avec la 2D.
C'est Ajor qui tire du pied droit, qui n'est pas son meilleur pied, et c'est pas une frappe. C'est pas une frappe dingue, on va dire.
Justement, vu qu'on parle de l'attaque de Hajar, de Gamero, je pense qu'on va pouvoir lancer le deuxième sujet de la soirée, qui est justement le duo Gamero-Hajar. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, footeuse, Thomas ou Steve. Quelqu'un veut prendre la parole sur le duo pour commencer?
Je vais commencer. En première mi-temps, on a beaucoup plus vu Hajar, parce que c'est lui qui a eu les rares occasions. Les rares occasions, c'était lui. Mais Gamero, qu'est-ce qu'il bouge? C'est un poison. C'est un poison. Et en deuxième mi-temps, ils nous ont fait une première demi-heure d'enfer. Mais vraiment d'enfer.
Il y avait beaucoup d'intensité, il y avait beaucoup d'automatisme entre les deux, comme si finalement c'était leur 15e match ensemble, alors que c'est la première fois qu'ils étaient titularisés tous les deux à la pointe de l'attaque. On les a sentis très impliqués devant, surtout en seconde période, surtout... Première mi-temps, on avait plutôt Ajor, mais c'est vrai qu'en deuxième, on a vu les deux. C'est vrai que c'est prometteur. Honnêtement, c'est très prometteur pour la suite. Et ça rejoint la première question. Du coup, c'est porteur d'espoir. Je ne sais pas, toi, Thomas, ce que tu en as pensé de Gamero et Ajor sur ce match.
Moi, j'ai pensé à peu près la même chose que Steve. J'ai trouvé que Gamero était, diabolique en première mi-temps. C'est vrai qu'il est. Alors, ça n'a pas payé parce que je trouve qu'il se dépense beaucoup, je trouve qu'il est un peu partout, alors il ne touche pas 10 000 ballons, il en a touché 2 ou 3, il a une occasion en première mi-temps, quand Kimpembe l'emmène sur son pied gauche, il frappe au-dessus, pareil, il a 2 occasions en première mi-temps, mais bon, il n'a pas des trucs faciles, et puis en deuxième mi-temps, effectivement, t'as l'impression qu'il se trouvait beaucoup, beaucoup plus facilement, ils ont été récompensés tous les deux de leur bon match par un but chacun. Gamero sort à un quart d'heure de la fin parce que quand tu vois son visage, t'as l'impression qu'il est carbonisé. Donc je pense que malheureusement, il lui manque encore 20-25 minutes dans les jambes pour pouvoir faire 90 minutes. Mais je pense que quand il les aura, ça va faire très mal. Je pense que ça va faire, à notre niveau, ça va faire très mal parce que c'est un vrai poison, clairement.
Quand il est sorti, l'animation offensive, elle a baissé de 2 crans.
Ouais.
Vous aussi. Bon,
on l'a vu, oui.
Mais si je peux me permettre, moi, mais je suis biaisée parce que je le regardais déjà à Paris, je le connais je le regarde en Espagne, donc je n'étais pas surprise, mais c'est agréable de voir que même après, il a toujours autant d'envie et il apporte justement ce que disait l'un d'entre vous il y a quelques minutes, cette activité. Il est en alerte en permanence et c'est ce qui fait que ça reste un joueur qui, qui peut faire des différences justement par cette activité-là. Et je vous rejoins, le duo était vraiment, surtout en deuxième mi-temps. En première, je ne voyais pas très bien, mais en deuxième, pour moi, c'était frappant. C'était frappant son apport et même l'apport de son coéquipier. Et c'était vraiment agréable de se dire, voilà, ces joueurs-là qui reviennent dans des championnats, qui reviennent dans des équipes comme ça, c'est pour apporter justement ce plus. Et j'espère que c'est de bon augure pour Strasbourg.
On a un commentaire.
Bah, justement, tu soulignais qu'on avait on voyait quand même un peu plus de mouvement en seconde période. Et c'est vrai que, comme le dit François Renoir dans les commentaires, l'entrée de Thomasson les a bien aidés aussi. Je ne sais pas ce que vous pensez sur la question, mais je pense qu'on est tous, tous d'accord là-dessus.
Oui, c'est ce que je disais avant, hein, c'est que l'entrée de Thomasson a changé le match.
Oui, c'est ça.
On a un commentaire Facebook avant, d'Arthur Timsit qui dit « Très intéressant, ça fonctionne bien ensemble. Gamero a montré une superbe intelligence de jeu et il a aussi adoré la complémentarité, justement, Gamero-Thomasson.
On a aussi vas-y Thomas.
Ouais, je voulais juste dire avant que Thomasson entre, on avait Bellegarde et Persic qui ont essayé de se projeter, surtout Bellegarde, je trouve. Mais effectivement, Thomasson était plus haut dans le jeu et c'était plus facile pour nous justement de trouver les attaquants quand Thomasson est entré en jeu. Ouais.
On a aussi du coup Klugos dans les commentaires qui dit que Gamero fait de bons appels intéressants, toujours à la limite du hors-jeu. C'est vrai qu'on ne l'a pas souligné, mais Gamero est toujours à la limite du hors-jeu. Il arrive très bien à se placer, à prendre la profondeur comme il le faut. C'est vrai qu'on l'a quand même plus vu en seconde période sur ce point-là.
Ouais. En renard, clairement. Renard.
Ouais, renard, petits appuis, tout ça.
Ouais.
Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet ou si on peut passer à la feuille de Thomas.
On peut passer à la feuille de Thomas, je pense.
Allez, allons-y.
Du coup, Fouteux, tu veux rester avec nous pour analyser les différents joueurs et performances du Racing ou tu veux qu'on te libère?
Je préfère être libéré, non pas que je ne veuille pas, mais c'est vraiment parce que je suis dehors et que ça me permet de rentrer chez moi à l'heure.
Il n'y a pas de souci.
On m'a de retour avec plaisir.
On va te remercier
je suis réinvité. J'espère que je ne vais pas trop déranger, mais oui, je pense qu'au match retour ce sera plus intéressant. J'ai beaucoup aimé, j'aurais aimé commenter avec vous la victoire à la Méno contre le PSG qui ne nous a pas rendu service quand on était allé à Munich après. Je pense que voilà, dans quelques mois on aura un peu plus la structure de chaque équipe et ce sera plus intéressant au niveau du PSG de savoir si ça a vraiment changé des choses. Avec plaisir, bonne soirée à tous et merci vraiment.
Merci.
Merci à toi pour ta présence et bonne saison à vous.
Merci à vous aussi.
Merci.
Au revoir.
À bientôt.
Du coup, on va lancer la feuille de Thomas. Ce soir, c'est Thomas qui nous a concocté cette petite feuille. On va y aller étape par étape.
Allez.
Elle s'est affichée à votre écran, normalement. Donc, on va commencer par le gardien, par Cels, qui a obtenu un petit cœur. Donc, je laisse Thomas en dire un peu plus sur son choix.
Ouais, on en a parlé déjà tout à l'heure. Moi, je pense que sur le premier but, il est un peu aux fraises. Donc, je lui en ai un peu voulu. Mais évidemment, sur les deux autres, il ne peut rien faire. Hein. Sur le deuxième, c'est contré, qu'est-ce que tu veux faire? Sur le troisième, c'est contré, qu'est-ce que tu veux faire? Par contre, il sort deux parades de monstres en deuxième mi-temps, notamment une sur Mbappé, là, bras gauche, enfin vraiment une parade de niveau mondial pour moi, très clairement. Et surtout, il nous laisse dans le match. Voilà, donc il nous permet de continuer à croire. Donc j'étais un peu mitigé et puis finalement Mats m'a bien rassuré. Voilà, donc il finit avec un petit cœur.
Ok, Steve, t'as un avis sur la question?
Je peux rien de mieux. Pas mieux. La même chose. Franchement, je suis du même avis que Thomas. Il m'a fait très peur en première mi-temps, vu où il est parti sur le but d'Icardi. Mais derrière, il s'est bien rattrapé et il nous laisse dans le match.
C'est vrai qu'à 4-0, ça aurait pas été la même chose. Et puis moi, j'ai vu aussi des choses qui m'ont fait rire. C'est en première mi-temps, j'ai vu des tweets passer qui disaient que Kawashima était meilleur que Cels, etc. Et en deuxième mi-temps, j'ai vu plein de personnes justement citer leur propre tweet et dire qu'ils s'excusaient par rapport à Cels. Ça m'a fait bien rire. Mais c'est vrai qu'il nous a beaucoup plus rassurés en seconde période, qu'il nous a permis de rester dans le match. Et je pense que j'aurais aussi mis un cœur pour Cels.
On a retrouvé en deuxième mi-temps, on a retrouvé notre gardien niveau international. N'ayons pas peur des mots. Hein. Clairement, les deux parades qu'il fait sont. Et en plus, il fait des parades sur Mbappé, tu vois. Il fait pas une parade sur je sais pas qui. C'est. Ouais, faut aussi le souligner. Voilà.
Bon, c'est une bonne conclusion, je pense. On va pouvoir passer aux trois défenseurs centrales. Donc, tu as mis un cœur pour Djikou, pour Perrin, et une petite tête de mort pour Sissoko.
Ok, alors je vais commencer par Perrin. Alors, Perrin, moi, je son arrivée m'a laissé un peu sceptique. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est un mec que j'avais vu jouer et il ne m'avait pas impressionné. Et je regardais ses stats, j'avais vu qu'il avait joué 12 ou 13 matchs en plus de 2 ans à l'OM. Donc j'étais un peu dubitatif sur le joueur et je dois dire que je vais complètement me renier et moi je l'ai trouvé très bon ce soir. Je l'ai trouvé très bon dans son rôle de défenseur central. Alors faut relativiser, il avait quand même Kylian Mbappé sur le dos quasiment tout le match, donc c'était très compliqué. Moi je l'ai pas trouvé ridicule sur l'homme. J'ai trouvé qu'il a éteint pas mal de situations chaudes sur le côté quand Fila était défaillant. Oui, vas-y.
Donc pendant tout le match, parce que Fila, dur. Dur, dur.
Ouais, voilà, Fila, bon, on va y revenir plus tard. Je vais juste peut-être finir sur le cas Perrin. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que le mec est très agressif dans le bon sens du terme. Je trouve qu'il y a beaucoup d'envie. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a été foutu sur le banc la première journée, qu'il s'est dit bon, je vais lui montrer ce que je joue, et je vais montrer à tout le monde ce que je joue. Moi, je l'ai trouvé très bon. Il m'a beaucoup plu. Voilà. Je ne sais pas, Steve, à toi, je te laisse.
Bah, faut dire qu'il jouer. Il avait un client en face. Hein. Il avait Mbappé. Il était en souffrance.
Ouais.
Hein. Il était.
Ouais. Ouais.
C'était dur. Clair. Il lui mettait en une seconde. Mbappé lui mettait 3 mètres. Donc c'était compliqué. Mais sur le reste, non, il y a rien à dire. Il mérite son cœur.
Voilà.
Justement, par rapport à ça, dans les commentaires, on a Lucas Schneider qui nous dit que sachez que Lucas Perrin a reçu un 2 sur 10 par l'équipe, un peu sévère, les mecs.
Ouais, bon, bah écoute.
Si tu retiens que les interventions qu'il a fait sur Mbappé, il était aux fraises, il était à la rue, mais c'est Mbappé, c'est pas non plus.
Oui, voilà.
C'est le même constat que l'arrêt de Cels, hein, bah, c'est un arrêt sur Kylian Mbappé, quoi, juste un des meilleurs joueurs du monde. Et ouais, Perrin, bon après, c'est pas parfait. On va dire que c'est un cœur d'encouragement. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui va beaucoup apporter dans l'envie et dans le combat. J'ai l'impression que c'est un vrai guerrier. Voilà. J'espère que je ne me trompe pas. Je pense que c'est un vrai guerrier.
Ok, bah on va pouvoir passer à Djikou, à moins que Steve, tu voulais commencer par Fila, peut-être.
Fila, lui, il est dans le dur. Il est vraiment dans le dur. Il découvre la Ligue 1. Il a eu une entrée en matière contre Angers pas simple où il s'est fait découper le cuir chevelu. Après, t'enchaînes avec l'Armada au Parc des Princes. C'est pas le plus simple pour un joueur qui vient d'arriver dans un nouveau pays, nouveau championnat, qui est jeune. C'est compliqué. C'est compliqué pour lui.
Ouais.
Ouais, j'ai trouvé quand même un peu plus intéressant en seconde période.
Ouais, tout à fait. Il a fait un premier quart d'heure qui m'a un peu fait moins alourdir la note finale. Je l'ai trouvé plus intéressant, plus entreprenant. Mais en première mi-temps, il faut voilà, je veux dire sur le premier but, il est à la ramasse, hein, il est beaucoup trop loin. Et j'ai l'impression sur le deuxième, c'est pas de sa faute. Sur le troisième, il est un peu impliqué aussi. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas bien saisi les fondamentaux du 3-5-2 ou du 5-3-2. J'ai pas l'impression qu'il ait compris que ça implique de beaucoup défendre et de beaucoup attaquer. Et lui, j'ai plutôt l'impression qu'il essaye d'attaquer avec très peu de réussite. Il a eu deux centres à faire, il les a ratés tous les deux. C'était vraiment des centres pourris. Désolé, mais. Et puis défensivement, c'est faible. Et puis je le trouve physiquement, je le trouve très fragile. Je tombe très facilement. Et, ouais, dans les duels, je le trouve pas bon. Voilà, je suis désolé, hein, je sale un peu la note, mais il m'a beaucoup déçu, moi, ce soir.
Ah oui, je pense qu'il lui faudra quand même un petit temps d'adaptation. Après, bon, c'est pas simple pour lui. C'est vrai qu'il change complètement de championnat. Il découvre la Ligue 1. Et puis il arrive un peu là par hasard, finalement, parce qu'on ne pensait pas qu'il serait titulaire aussi vite. Donc, c'est À voir comment ça va avancer.
Bah moi je lui laisse, franchement c'est pas une condamnation à perpétuité, hein, ce soir, hein, c'est voilà, moi c'est un ressenti. Je lui souhaite de faire mieux la semaine prochaine, déjà les semaines d'après, et voilà, pourquoi pas, parce que je trouve que c'est quand même un mec qui a une espèce de d'élégance dans le jeu. Je le trouve plutôt agréable à regarder, mais c'est quand même très très light, moi je trouve, pour alors particulièrement sur un match comme Paris. Mais même déjà la semaine dernière, je l'ai trouvé à la ramasse la semaine dernière. Mais ce n'est que mon avis. Voilà.
Bah on va passer à Djikou, du coup, qui a reçu un cœur.
Ouais.
Je te laisse argumenter dessus pour commencer.
Bah écoute, le cœur, tout simplement, parce que j'ai l'impression d'avoir retrouvé l'ex Djikou de la saison dernière, le mec plutôt sûr de lui, costaud, dur sur l'homme. Propre dans ses interventions, rassurant, un peu capitaine de défense, qui donne ses ordres. Et voilà, il a pas fait d'erreur pour moi, excepté, on va pas revenir sur son carton rouge, hein, mais moi je l'ai trouvé très propre du début à la fin. Et voilà, donc cœur, tout simplement.
Voilà. Ah, c'est vrai qu'on a vu un Djikou qui était patron de la défense, qui était solide dans ses interventions, dans son placement, qui était rassurant. Après, voilà, il y a le rouge, on en a reparlé.
Ouais.
On ne pourra pas refaire le match, mais
non.
Il va nous manquer au prochain match, c'est sûr.
Bah, ouais.
Déjà qu'on n'a pas de défense.
C'est ça. On perd le patron.
Très clairement, ça va être une défense centrale. Enfin, très clairement, je ne sais pas, mais. Sinon, si c'est au coopérant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas avoir le choix, en fait. Hein. Peut-être placer Cassie dans l'axe, je sais pas.
Il y a Clugos qui me dit que Djikou, son seul défaut, c'est de rater des matchs pour accumulation de cartons jaunes. C'est vrai qu'il en avait pris pas mal la saison dernière, j'ai pas les stats sous les yeux.
Ouais.
Après, ce soir, voilà, c'est pas forcément mérité, mais.
Non, c'est plus que pas mérité, c'est scandaleux. Hein. Faut pas avoir peur. Hein. C'est scandaleux, ce rouge. Mais bon, on va pas épiloguer. Hein.
J'ai la stat sous les yeux, il a pris 8 cartons jaunes en Ligue 1 la saison dernière, voilà, pour ceux qui voulaient savoir.
Okay.
Et pas de rouge de mémoire.
Non, il me semble qu'on a eu que 3 rouges la saison dernière, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il y avait Gilbert à Nîmes, mais après je m'en souviens.
Mitrovic contre Rennes.
Et Thomasson. À Lyon.
À Lyon, tout à fait. Ouais.
Bon, on va pouvoir passer du coup au dernier défenseur central, Sissoko, qui a eu une toute petite tête de mort.
Ouais.
Bah, c'est pas son poste, hein, je peux le dire. C'est pas son poste.
Ouais,
il
n'a
pas joué là.
Ouais.
Donc voilà, moi, c'est logique.
Ouais, c'est. Petite tête de mort. Parce que bon, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse, mais je lui fais payer. Je lui fais payer l'erreur de marquage du début, qui coûte très cher. Voilà, qui coûte très très cher. Et qui nous plombe un peu le match. Et puis après, bah, malheureusement, ouais, je ne le trouve pas impérial, quoi. Je le trouve pas rassurant, tout le contraire de Djikou, en fait, tout le contraire de Djikou. Et puis ben à son pour le défendre un petit peu, effectivement, comme l'a dit Steve, c'est pas son poste, donc à un moment faut arrêter avec ça. Alors je sais qu'on est en plein bricolage et on fait avec ce qu'on a aujourd'hui, mais Sissoko n'est pas un défenseur central, quoi, voilà, point barre. Pour moi, ça va pas plus loin, il faut arrêter avec ça, il faut le faire remonter dans les meilleurs délais, voilà.
Alors, je pense que j'ai rien de particulier à rajouter là-dessus. Hein. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Alors, on va pouvoir passer du coup à notre latéral gauche de ce match, Lénard, qui a reçu un cœur.
Mmh. Alors, moi, le cœur de Lénard, essentiellement pour son activité incessante. Moi, je ne sais pas si c'est moi qui ne suis pas objectif, mais je trouve qu'il est ultra ultra actif sur son côté. Alors c'est toujours, ça peut être imprécis de temps en temps, ça je suis entièrement d'accord, c'est pas parfait, mais voilà, je trouve que il y a énormément de détermination, il parle beaucoup, bon c'est le capitaine, il est un petit peu obligé, Mais voilà, je trouve qu'il est récompensé. Il pose un super caviar sur la tête d'Ajorque pour venir couronner un petit peu son activité, je veux dire. Et oui, donc voilà, cœur pour l'emblème.
Bah, Guénard, pour moi, il était à l'image de l'équipe. Une première mi-temps plutôt compliquée et transcendé en deuxième. Tout ce que j'ai à dire.
C'est un peu un constat de tous les derniers matchs, finalement, de Lénard, j'ai l'impression. Il est capable du meilleur comme du pire. Et on l'a encore vu ce soir. Ouais, il a aussi distillé un magnifique centre pour Ajorque, si je ne dis pas de bêtises, le deuxième but.
Ouais, c'est le deuxième, oui. Ouais.
Caviar pour Ajorque, donc ouais, je lui aurais aussi mis un petit cœur, je pense. C'était du Lénard tout craché, finalement, ce match.
Ouais, ça peut être laborieux, mais c'est toujours fait avec énormément de conviction et de cœur, je trouve. Voilà, mais c'est clair que c'est pas parfait. Voilà. Et puis à son corps défendant, pareil que même constat pour Sissoko, c'est pas son poste. Ce n'est pas son poste. Donc indulgence aussi, on va dire, par rapport à ça.
Ok, ben, du coup, on va pouvoir passer à notre numéro 6, à Oulu, qui n'a rien sur, sur la feuille. Moi, personnellement, j'aurais mis une tête de mort, je pense, parce qu'honnêtement, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu du tout. Bon, il a joué que 40 minutes, mais honnêtement, je ne l'ai pas vu. Comme si finalement, il y avait un trou au milieu de terrain.
Pareil. Je suis entièrement d'accord. Alors, il n'a rien, parce que moi, si tu veux, je suis parti du principe que je n'allais pas le noter. Parce que moins d'une mi-temps, pour moi, ça ne méritait pas de notes. Mais qui ne dit mot consent, donc je suis entièrement d'accord avec toi. Tête de mort, clairement. Voilà. Sert à rien. Perdu sur le terrain. Je ne sais pas ce qu'il a foutu, s'il a pris une béquille ou quoi que ce soit. Il a continué à jouer. Il fallait sortir tout de suite, je pense, parce que c'était catastrophique. Les 10-12 minutes qui ont suivi sa première blessure, là, quand il était le long de la ligne de touche, il a été transparent, il courait plus. Enfin, c'était vraiment, je comprends pas que le mec. Déjà, je comprends pas que Stéphane le laisse sur le terrain dans ces conditions-là. Mais peut-être laisser le temps à Thomasson de s'échauffer, d'être bien chaud. Mais voilà, ouais, franchement, tête de mort et réveille-toi rapidement, quoi.
Steve, t'as quelque chose à rajouter sur Aoulou?
Bah, limite jusqu'à ce qu'il se blesse, je me dis, tiens, il était là, lui. Donc, voilà, ouais. C'est tout. Moi, je lui aurais mis une tête de mort d'un assez grand format.
D'accord, ouais, moi, je suis assez d'accord. Ouais.
Bah, on va pouvoir passer à son remplaçant, Thomasson. On peut lui être reconnaissant, finalement, d'être sorti, puisque Thomasson a quand même bien changé la balance dans ce match. Donc, Thomasson qui a écopé d'un cœur sur ce match.
C'est ça. Bah, c'est un mal pour un bien. Hein. L'entrée de Thomasson, clairement, comme l'a déjà dit Steve tout à l'heure, l'entrée de Thomasson a transformé le match. Voilà, c'est exactement ce qui manquait. Comme moi, j'ai pu le dire déjà précédemment, on avait deux mecs derrière. On avait déjà Oulu qui n'était pas là, mais on avait Bellegarde et Persic qui ont eu beaucoup de mal. Plus Persic que Bellegarde pour moi, mais beaucoup de mal à trouver leurs attaquants. Voilà, donc j'ai trouvé que l'entrée de Thomasson, clairement, comme s'il a complètement modifié le match, plus de créativité. Et puis voilà, Thomasson est beaucoup mieux dans cette position que la semaine dernière contre Angers, sur un côté où il sert à rien. Quoi. Voilà, donc là, on a retrouvé le Thomasson qu'on aime. Quoi. Plutôt axial et plus dans une position de créateur que dans une position de milieu excentré.
Bah, je suis d'accord avec ce qui a été évoqué. Totalement d'accord. Quelque chose à rajouter? On peut passer à la Bellegarde-Persic.
Pour moi, c'est bon. On peut passer à Bellegarde-Persic.
Bah, du coup, Persic a écopé d'une petite tête de mort et Bellegarde d'un cœur. Je te laisse choisir par qui tu veux commencer.
Bah, je vais commencer par Persic. Alors malheureusement, j'avais placé quelques espoirs dans notre ami Persic sur ce match, en me disant encore une fois, une énième fois, il est titulaire ce soir, ça, il va nous montrer son niveau. Il jouait pas l'année d'avant parce que Lorraine l'avait dans le pif et qu'il voulait pas le faire jouer. Mais bon, patatras. voilà, c'est un petit peu le même constat que Aolu. Ouais, c'est très imprécis, c'est des trucs très simples qui sont manqués, des mini transversales qui sont ratées, aucune influence sur le jeu. Enfin, ouais, super décevant, vraiment très 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 décevant. Et puis malheureusement, j'ai l'impression qu'il a une fois de plus raté l'opportunité de rejouer la semaine d'après.
Bah moi, je trouve qu'en première mi-temps, il a été cataclysmique. Il a raté, ouais. Il a raté tout ce qu'il a fait. Il a absolument tout raté. Clair. Mais tout raté. Ouais. Moi, je l'ai raté. Stéphane, à la mi-temps, il était dehors. Hein. Mais il a quand même, à sa décharge, il a fait, on va dire, une deuxième mi-temps plutôt bonne. Parce qu'il a bien
orienté, mieux.
Il a bien orienté le jeu en deuxième mi-temps par moment. Vraiment, il a fait il a bien ouvert, il a fait des belles ouvertures, mais ça suffit pas à ce qu'il puisse avoir un
cœur. Ça suffit pas.
Ouais. C'est insuffisant.
Non, puis ça suffit pas à ce niveau. Puis à un moment donné, l'indulgence, ça va quoi. Tu vois, il faut. C'est quand même un mec qui a de la bouteille. Je sais pas combien de matchs il a en Ligue 1. Enfin, c'est un mec qui a de l'expérience. Tu peux pas passer à travers des matchs comme ça, t'as pas le droit, quoi. Tu n'as plus le droit, surtout dans la situation où t'es vachement en sursis, tu joues pas beaucoup. Putain, quand t'as l'opportunité de jouer, fais-nous 90 bonnes minutes, même si c'est à Paris, quoi. Ça suffit plus, cette excuse de c'est un gros match, il y a des clients en face. Bah justement, il faut que tu sois encore plus déterminé et que tu nous sortes un match cohérent. Et là, c'est pas le cas, malheureusement. Pour moi, c'est pas le cas, du moins.
Bah d'ailleurs, petite stat, c'était sa première titularisation en Ligue 1, pardon, depuis le 6 février contre Lyon. Défaite 3-0.
Ouais, voilà.
Okay. Bah du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à Bellegarde, qui a coupé d'un grand cœur sur ce match.
Ouais. Alors, moi, j'ai pas toujours été extrêmement tendre avec Bellegarde, parce que c'est j'aime bien ce joueur, mais il me déçoit. Un coup, il est pas mal, un coup moins. Et je trouve qu'il a beaucoup de mal à confirmer. Mais là, par contre, aujourd'hui, je l'ai trouvé costaud. J'ai trouvé qu'il avait essayé de ressortir très proprement les ballons. Il se projetait, il était très, très mobile, il bougeait à droite, à gauche. J'ai trouvé qu'il avait beaucoup travaillé et j'ai pas regardé ses stats, hein, si quelqu'un les a, mais moi j'avais trouvé qu'il avait beaucoup bougé, beaucoup travaillé, et je trouvais que la plupart du temps c'était relativement propre et qu'il y avait des idées dans ce qu'il essayait de faire. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de lui attribuer ce grand cœur, parce que c'est à la fois un gros encouragement et puis c'est aussi un ressenti que j'ai eu sur ce match. Voilà.
Ah, il a été très intéressant, il a été plutôt solide. C'est vrai qu'il nous a pondu une prestation plutôt propre, assez prometteuse aussi pour la suite, qui est porteuse d'espoir, comme on en parlait dans la première partie. C'est vrai que j'aurais aussi mis un cœur sur cette rencontre. Je ne sais pas ce que tu en as pensé de ton côté, Steve.
Bah, pour moi, Bellegarde a fait du Bellegarde. Il est à son image. Pour moi, c'est il est très régulier. Moi, je trouve qu'il est très, très régulier. Et non, rien à dire. Il mérite son cœur. Voilà, il a fait du Bellegarde. Pour moi, il a été bon. Il a vraiment été bon ce soir.
Bon, on va pouvoir passer du coup à notre duo d'attaquants, Ajorque et Gamero, qui ont tous les deux un cœur. Donc, on a pas mal parlé d'eux tout au long de cette émission. Moi, je pense qu'on va pouvoir faire un dernier petit détour sur eux. Je sais pas qui de vous deux veut commencer.
Bah écoute, vas-y, Steve, vas-y.
Écoute, moi je pense qu'on a beaucoup parlé de Jack dans le deuxième sujet. Il n'y a rien à dire. C'est un duo qui va être détonnant. Moi je pense qu'il va être détonnant. Ça commence à bien se trouver, ça joue bien ensemble, c'est bien complémentaire. C'est rien à dire. Rien à dire. Hâte de voir la suite. Ouais.
C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'automatisme entre les deux. Comme je disais, on a l'impression qu'ils n'en sont pas à leur premier match. Alors, premier match ensemble, et ce qui est aussi très prometteur, c'est qu'on a quand même joué contre le PSG, et je pense qu'on a des équipes un peu plus faibles, entre guillemets, et ça risque d'être assez explosif.
Ouais, je suis d'accord.
À voir si Stéphane va reconduire ce duo d'attaque contre 3. Personnellement, je pense qu'il va le remettre.
Ouais, je pense aussi. Je pense que le ticket à genre Gamero... Contre 3, à mon avis, ça va être conduit d'entrée. À voir maintenant si Thomasson va jouer derrière pour alimenter peut-être un autre système, je sais pas. Mais ouais, moi je suis sous le charme de la paire et puis ils marquent tous les deux un but, hein, donc le cœur se justifie aussi déjà tout simplement par ça. Et, voilà, donc
hâte de voir. Pour finir, on va pouvoir parler du cœur de Stéphane. Tu as mis un cœur sur, ouais. Sur ce match.
Ouais, alors moi j'ai mis un cœur au coach. Alors j'avoue que la semaine dernière, quand je suis sorti du stade après Angers, je me suis un peu demandé ce que c'était la Stéphane, la patte Stéphane, la touch Stéphane. Et j'ai l'impression d'avoir compris ce que c'était ce soir. Je ne sais pas si c'est moi qui ai compris ou la semaine dernière si je n'ai pas compris. Mais ce que j'ai compris ce soir, c'est que quand tu rentres à la mi-temps avec 3-0 au Parc des Princes, que tu as 50 000 personnes, tu as Messi qui a été présenté et compagnie, tu peux dire « putain, j'ai peur, j'en prends 8, je vais bétonner comme c'est pas permis ». Et ben en fait non. Voilà, lui il est parti avec une autre idée. Il fait rentrer Thomasson, il change son système et ça paye. On met deux buts et voilà. Donc est-ce que c'est ça la touche Stéphane, ne pas avoir peur, jouer, envoyer du jeu. Et ouais, j'espère que c'est ça. Je sais pas si c'est ça, mais j'espère que c'est ça. Moi j'ai vu des séquences qui m'ont beaucoup plu ce soir. J'ai vu du jeu et on jouait au Parc des Princes. Voilà. Donc, oui, voilà, j'ai très très envie d'être à dimanche prochain pour voir ce que ça va donner contre le plat.
Je suis totalement d'accord avec toi. Vas-y, Steve.
Je pense qu'il a illustré ce qu'il disait en conférence de presse d'avant-match, c'est qu'on y va en outsider, pas en victime. Et c'est vraiment ce qu'il a essayé de mettre en place. S'il n'y avait pas eu tous ces faits de jeu, ça serait passé différemment. Ouais. Mais ça illustre. Ouais. Il a parfaitement illustré ce qu'il a. Il a fait ce qu'il a promis. Et
ouais, juste on est
pour le petit, pour la petite information, en conférence de presse d'après match, il vient de dire qu'il y a eu beaucoup d'événements contraires à une performance de notre part ce soir. La validation du premier but, la frappe contrée, l'expulsion qui nous a coupé les ailes, tout ça a eu des conséquences trop fortes sur le match.
Ouais. Oui, bah, clairement, oui. On est tous d'accord sur ce constat. Hein.
Oui.
Voilà. Qui sait ce qui aurait pu se passer si on avait fini ce match à 11 Voilà, malheureusement, on ne le saura jamais, mais ça fait chier. Voilà.
Non, en tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on n'a pas à rougir de la performance et encore moins de la seconde période, hein, qui était quand même très intéressante.
Oui. Ouais, on repart la tête haute. Clairement, on repart la tête haute et je suis pas sûr que tout le monde repart du parc la tête haute cette année.
Voilà. Ah, c'est clair.
On n'a pas joué contre Neymar et compagnie. Mais moi, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais moi, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas rassurés, hein, les mecs à 3-2.
En deuxième mi-temps, ça a reculé. Hein.
Ah ouais, ils n'étaient pas rassurés. Kimpembe, c'est à 4-2, hein, l'erreur de Kimpembe. Mais les mecs, ils n'étaient pas sereins. Ils n'étaient pas sereins du tout. Je suis sûr qu'en appuyant un peu, pas impossible qu'on égalise. Peut-être qu'on prend le quatrième derrière, mais voilà, c'est pas impossible qu'on égalise. Voilà. Donc ouais, super. Beaucoup, beaucoup d'espoir. Je pense que c'est l'enseignement numéro 1 de ce match. C'est vraiment beaucoup de motifs d'espoir.
Voilà, c'est ça. Bah, la boucle est bouclée, du coup, j'ai envie de dire. On va pouvoir passer au prono pour la semaine prochaine.
Ouais, ok.
Chrono pour Strasbourg 3 qui sera dimanche à 15h si je ne dis pas de bêtises.
Tu ne dis pas de bêtises.
C'est ça, oui.
Dimanche 15h. Bah, du coup, qui veut se lancer en premier, qui veut se mouiller sur les pronos de Strasbourg 3?
Allez, je me mouille. Moi, je pense qu'on va gagner très largement 1-0.
Très largement
1-0. But de qui?
Allez, un but de Perrin sur un corner.
Allez, Steve.
Je pense que ça va être un match à but. Ça va être un match à but parce que devant, ça va pulser. Derrière, chez nous, ça va être un peu très compliqué. Donc, je pense qu'on va faire le même score que ce soir, 4-2.
4-2, ok. Ouais. Moi, je dirais 3-2. Je pense, 3-2 pour le Racing parce que je pense qu'on aura une défense un peu bricolée, si je puis dire. Donc, je pense qu'on sait des débuts, mais... Je vois aussi l'attaque briller et prendre en confiance sur ce match, donc une victoire 3-2 du Racing.
Avec des buts de qui?
Allez, on va dire un petit but de Gamero de nouveau, un de Thomasson et puis un de Bellegarde.
Moi, je pars sur un doublé de Gamero et un but de Bellegarde.
Ok. C'est vrai que, petit aparté, mais crier le nom de Gamero sur un but à la Meno, ça me ferait quand même vachement kiffer. Ça rappellerait de très bons souvenirs. Enfin, voilà, je pense du coup, on a fait le tour des pronos. On a pas mal de pronos dans les commentaires. 2-1 pour Strasbourg, 1-1 de Gamero, 4-3 pour Kugos, qui voit aussi un match très animé offensivement, 3-1 pour Lucas Schneider, 3-1 pour The Gamer 68.
Il y a une question sur YouTube de Florian qui demande ce qu'il faut faire de Diallo.
Ah bon, si vous voulez faire une petite aparté dessus, sur Diallo. Honnêtement, moi je pense qu'on va quand même pouvoir compter sur Diallo cette saison en tant que joker plutôt, parce que je vois mal la paire d'attaque bouger.
Ouais. Est-ce que c'est un je sais pas si Steve Flo, est-ce que vous pensez que c'est un rôle qu'il va accepter?
Bah, il va pas avoir le choix, hein. Il va pas avoir le choix, ouais. Parce qu'il n'a pas sa place titulaire là, pour l'instant. Il faut qu'il aille la chercher.
Ouais.
D'accord. Et vu son état d'esprit, je suis pas sûr qu'il soit en capacité de la chercher.
Ouais, je pense pas non plus. Je pense pas non.
Sinon, juste pour répondre à une question qu'il y a sur le chat YouTube là, de Mathéo Meyer qui demande pour combien de matchs sera suspendu Djikou. Ce sera un seul match. C'est deux cartons jaunes, c'est un seul match de suspension.
Ouais.
Ok, marrant. Si quelqu'un a encore quelque chose à rajouter, sinon on va vous laisser là-dessus.
Je pense qu'on a fait le tour pour ce soir.
On a fait le tour. On attend des recrues cette semaine, apparemment.
Bon, j'espère qu'on pourra les annoncer et en parler à la prochaine prolongue. Ce serait sympa.
J'espère qu'on n'aura pas trop de sabliers.
Pas trop de quoi?
De sablier.
Ah, de sablier, ouais. C'est clair. Non, mais on espère, ouais, on espère. Bah, un défenseur central, ce serait bien là, assez rapidement quand même. Entre autres, voilà.
Bah écoutez, du coup, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Thomas et Steve qui m'ont accompagné ce soir et à Footeuse également pour cette prolongue. C'était très intéressant. Je suis content de vous l'avoir présenté. C'était une première, donc j'espère avoir été à la hauteur. On va vous souhaiter du coup une bonne soirée, une bonne nuit. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Normalement, ce sera à 18h, 18h30, si je ne dis pas de bêtises. On vous tiendra au courant. Et puis voilà, moi, je vous souhaite une bonne soirée au nom de la cape de papy. Et on vous dit à très très vite.
À bientôt.
À bientôt. Bonne soirée à tout le monde.